Donc, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et on sait qu'on ne peut pas bâtir une maison n'importe comment. C'est pas parce qu'on jette quelques parpaings, voilà, qu'on met 2-3 planches, et ça y est, on a une maison qui est solide. Hein. Jésus nous l'a expliqué avec une belle parabole dans les évangiles, où il a parlé du sage et du fou. Le sage a cherché à bâtir sur le roc. Il est dit que la pluie est tombée, les torrents se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et puis, le fou, lui, il a bâti sa maison sur le sable. Alors, il a monté ses murs, il a fait un toit. Et puis, à ce moment-là, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Alors, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et là, eh bien, Jésus nous enseigne sur l'importance de bien bâtir, de bien fonder sa maison. Si on ne veut pas échouer, eh bien, il faut bâtir avec sagesse, il faut bâtir consciencieusement, avec un fondement solide, quelque chose qui soit inébranlable. Et là, quand il nous parle dans cette parabole du roc, le roc c'est Jésus-Christ, mais c'est aussi la parole, il est la parole vivante, hein, et c'est bâtir sur lui, sur sa parole, c'est ça qui nous donne un fondement, c'est ça qui nous donne une stabilité. Le roc, on peut dire, il est entre nos mains, si on suit ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors on va être en sécurité. On va bien bâtir, ça va bien reposer si on met en pratique les Écritures. Donc il faut bâtir sur ce que Dieu préconise, sur ce que Dieu ordonne, conseille. Le seul fondement solide, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai pour tout en fait. C'est vrai pour le couple, hein, si on veut bien bâtir son couple sur les Écritures. C'est vrai pour la famille, avec les enfants. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour notre vie professionnelle. Si on a envie de bâtir comme il faut, il vaut mieux respecter ce que Dieu dit. Et c'est vrai aussi pour l'église locale. Il faut rester et fonder sur ce que disent les Écritures. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous parler de l'église locale. Alors, il y a toutes sortes de conceptions de l'église locale, mais on peut voir dans les Écritures le début de l'Église locale ou des Églises locales, sa création, sa fondation, jusqu'à eh bien, sa maturité, où là, eh bien, voilà, elle atteint un stage mûr. Au tout début du christianisme, qu'est-ce que c'était l'Église ? C'était un rassemblement, une foule immense, plein de croyants qui s'étaient convertis. Et puis, il y avait 12 apôtres là, qui venaient d'être désignés par le Seigneur, qui étaient tout frais là, et c'est eux qui ont commencé à s'activer pour prendre soin de ces milliers de personnes. Et puis il y a eu la persécution, suivie de la dispersion et de la propagation du beau message de l'Évangile. Et là, ça a commencé à se répandre un peu partout, dans toutes les nations. Et c'est là que l'Église a pris un visage différent. Elle n'était plus un rassemblement de milliers de personnes en un seul lieu, mais elle a commencé à être un rassemblement de quelques centaines par-ci, cinquantaines par-là, et voilà, ils se sont dispersés et groupés en petites églises en fait, en divers lieux. Donc on avait au départ une seule grande église locale, et cette grande église divisée est devenue des dizaines, des centaines, des milliers, et aujourd'hui des millions d'églises locales partout sur la planète. Et ça, c'était le plan de Dieu de multiplier en milliers, de petites cellules son corps, dont Jésus est la tête. Alors, comme c'était son plan, Dieu a prévu un cadre justement pour permettre à ces multiples petites églises locales non seulement de perdurer dans le temps, mais aussi de grandir en nombre, de grandir en maturité et se multiplier. Et ce cadre, eh bien, c'est la structure, on peut dire, de l'église locale. Comme le bâtiment dans lequel nous sommes, là, il y a une structure qui est solide, c'est certain. Quand vous descendez dans la cave, il y a une cave ici juste en dessous, là. Vous voyez les murs, voilà, que ça descend profondément, et puis ils ont dû bien creuser pour aller poser les fondations. Nous, dans le nouveau local où on va déménager bientôt, eh bien, c'est pareil. Hein. On a bâti des murs, on a creusé, on a mis des fondations. Et il faut des fondations pour que ce soit solide. L'apôtre Pierre nous enseigne. Il dit que nous sommes, nous les chrétiens, des pierres vivantes. Nous sommes chacun une pierre vivante, et nous devons nous édifier les uns les autres pour former une maison spirituelle pour le Seigneur. On doit former un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus étant lui-même la pierre angulaire, choisie, précieuse, sur laquelle toutes les pierres reposent. Nous reposons sur lui. Jésus est la pierre d'angle et nous sommes les pierres vivantes qui reposons sur lui. Et on ne construit pas une maison en jetant des pierres comme ça un peu au hasard. Ça ne va pas faire une maison. Un maçon, il choisit, il choisit ses pierres, comment il veut la construire. J'ai vu à côté de chez moi, ils construisent avec du parpaing, avec des briques rouges, des fois ils alternent. Mais il n'y a pas une ligne de parpaing et puis après une ligne de briques rouges. En général, on construit, on essaie de bien choisir ses pierres pour que chacune prenne sa place. C'est comme les murettes, je pensais dans les vignes. On m'avait expliqué comment on fait les murettes là. C'est incroyable, tous ces petits murs là, mais ils choisissent bien. Bonnes pierres, des grosses tables au départ et puis on construit comme cela. Et c'est la même chose avec l'église locale. Il va de soi que l'église locale, c'est pas hop, on jette des pierres vivantes dans un coin et puis hop, ça va faire une église un peu au hasard. Dieu, il travaille pas avec le hasard. Il fait les choses et il bâtit comme il le veut. Dieu nous a donné un cadre, il nous a donné une structure, un plan qu'il nous faut garder, suivre pour assurer la pérennité de l'église locale. Ça ne veut pas dire que les choses sont absolument figées, que ça ne peut pas bouger, s'adapter, évoluer, changer. Il n'y a pas non plus un stéréotype, une méthode exclusive. Vous savez, des fois, il y a des églises locales, elles fonctionnent de la même manière parce que la structure vient de Dieu, mais ils ne vont pas mettre les mêmes noms. On ne va pas dire les choses de la même manière, mais finalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Toutes les églises locales ne sont pas absolument identiques. Et chacune, dans son indépendance, a son mode de fonctionnement. Mais il y a tout de même un cadre qui ressort des Écritures. Il y a une structure qu'on peut dire biblique, qui donne le fondement solide à l'Église locale. Il y a une structure qui est inspirée de Dieu pour l'Église locale, elle nous est donnée d'en haut, elle vient du ciel. Il y a une structure qui est protectrice pour l'ensemble des membres. Et il y a une structure qu'on peut appeler visionnaire pour l'avenir de l'Église locale, parce que elle pourra avancer. Alors d'abord, on voit qu'il y a une structure qui est profondément biblique. Alors c'est intéressant de voir comment s'est structurée l'Église de Jésus-Christ à son commencement. Comment l'Église locale elle s'est mise en place ? Donc je vous ai parlé de cette dispersion, ces milliers de croyants qui sont partis dans tous les sens. L'Église a commencé avec la multitude des disciples et les apôtres qui enseignaient, mais les choses ne sont pas restées comme ça. Premier changement important concernant l'organisation de l'Église locale, c'est le choix de serviteurs pour venir aider les apôtres. Donc, c'est ce qui a donné les diacres. On va prendre ensemble Actes 6, versets 2 à 4. Actes 6, versets 2 à 4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc là, on voit déjà l'ébauche d'un cadre, d'une structure, du commencement. Pourquoi ? Parce que au tout départ, eh bien, comment ils fonctionnaient, ça ne convenait plus à l'évolution de l'Église, hein, de la manière dont elle avait prise. Au tout départ, eh bien, il y avait les 12 apôtres, et puis il y avait des disciples qui étaient au-dessus, autour, une centaine. Mais d'un seul coup, voilà, ça a été exponentiel, hein, parce qu'il y a eu énormément de conversions. La parole de Dieu dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au départ, 3000 âmes. Et puis après, ils étaient 5000, vous voyez, des milliers d'âmes. Comment on gère cela? Et les apôtres étaient perdus, quoi. Comment on va gérer? Non seulement il faut les enseigner, mais en plus, il y avait toutes les difficultés matérielles qu'ils pouvaient connaître à l'époque. Hein. Donc, c'était ingérable. Alors, il fallait d'autres serviteurs, des diacres, hein, puisque c'est la signification du mot, hein, des serviteurs, hein, ceux qui servent, pour décharger les apôtres, justement, de toutes les tâches matérielles. Et c'est intéressant de voir que toute l'assemblée a choisi parmi elles les hommes qui étaient les plus zélés et qui avaient le meilleur témoignage. Ils ont choisi plutôt des Grecs, on voit, d'après les noms, hein. Mais la distinction s'est surtout faite à partir de leur marche avec le Seigneur. C'était ça qui était important. Ils n'ont pas choisi, « Ah, ben toi, tu as déjà travaillé dans une taverne, ben viens, on a besoin de toi. » Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Alors les apôtres se sont tournés vers l'assemblée. Pourquoi? Parce que les apôtres ne connaissaient pas ces 5000 personnes. Hein. Mais depuis quelques jours ou quelques semaines qu'ils marchaient ensemble, eh bien ça devenait une évidence. Ceux qui aimaient le Seigneur, ceux qui étaient vraiment, qui avaient non seulement des aptitudes, mais surtout qui étaient consacrés spirituellement. C'était ça qui était important. J'imagine quand ils ont choisi les poutres pour mettre dans cette salle, eh bien, ils les ont vraiment bien choisis. Ils n'ont pas pris une poutre fendue qui était déjà rognée ou mangée. Hein. Ils ont choisi des poutres qui étaient belles, qui étaient solides, c'était important. Eh bien, ça a été la même chose avec les premiers diacres. L'Assemblée de Jérusalem a choisi avec minutie des personnes qui étaient fidèles, consacrées, zélées pour le Seigneur. Ils ont choisi des cœurs qui étaient humbles. Des cœurs humbles et qui étaient prêts à servir les autres. Et c'est toujours la même chose avec l'Église locale. Dieu regarde les cœurs vrais, les cœurs sincères, les cœurs humbles, et c'est eux qu'il va utiliser pour soutenir son Église. Et c'est intéressant de voir que parmi les 7 premiers diacres qui étaient tous consacrés, 2 ont été appelés à quelque chose de différent. Il s'agit d'Étienne et de Philippe. Tous les deux ont reçu un don particulier pour évangéliser et puis voilà, partir et aller répandre l'évangile, réfuter les contradicteurs. Et donc parmi les plus consacrés, Dieu met à part 2 personnes pour une œuvre différente. Ce n'est pas l'Assemblée qui a choisi Philippe et Étienne pour cela, hein, pour qu'ils deviennent des évangélistes, hein, mais c'est Dieu qui les a pris, qui les a mis à part pour aller faire cette œuvre. Et petit à petit, on voit que le Seigneur a donné un cadre à son Église. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup, hein, mais ça a été progressif, tout doucement. Les hommes les plus engagés se voyaient confier une responsabilité dans l'Église, et ensuite, certains d'entre eux recevaient un don spécifique. On est tous, en tant que chrétiens, appelés à servir le Seigneur, logiquement. C'est quelque chose qui est certain. Et c'est ce qui s'est passé pour ces chrétiens de Jérusalem. En fait, ces 7 diacres, mais c'était des hommes qui servaient déjà. Ils étaient dans le service. Et c'est ça qui est important, être dans le service, servir le Seigneur toujours mieux. Et puis après, Dieu les a conduits à voilà, être nommés diacres. Alors c'est vrai que dans une église, certaines églises, on pourrait nommer 40 diacres. S'il y a 40 serviteurs. Mais il y a un nombre nommé, mais ça n'empêche pas que tout le monde serve le Seigneur. Donc, Philippe a quitté son diaconat, il a répondu à l'appel pour aller évangéliser l'eunuque éthiopien sur le chemin de Damas. Et puis, un petit peu plus loin, dans le livre des Actes, on voit que des prophètes apparaissent. Regardez, Actes 11 et verset 27. Il est dit En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Et puis ensuite, acte 13, et versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on voit ici encore ce qui est un appel, on peut dire un appel spécifique. Dieu avait choisi Barnabas et Saul en tant que prophètes, docteurs, hein, pour une œuvre particulière qui ne concernait qu'eux. Alors il a dit, mais mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a un appel ici, un appel particulier, pour une tâche particulière. Et on voit que Dieu donne parfois un appel. Un appel à certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. Et notamment, eh bien, on a ce passage d'Éphésiens, Éphésiens 4 et verset 11, que vous connaissez pour beaucoup, hein, où il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, hein, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc ici dans ce passage, on voit que Christ a fait des dons aux hommes, il a fait des dons, et ces dons c'est des personnes qui vont aider à construire, à bâtir, à édifier son Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, ou pasteurs-docteurs, hein, puisque la construction grecque se prête à lier les deux ensemble. Et on peut dire que ces hommes eh bien, représentent une partie du cadre, une partie de la structure de l'Église. Ils ont reçu un don particulier, un ministère spécifique. Ça ne veut pas dire, bien sûr, encore que tous les autres chrétiens ne sont pas inclus et n'aident pas à construire. Hein, quand il dit « édifiez-vous les uns les autres hein, », voilà, tous ces versets avec les uns les autres, on avait vu ça récemment, hein, mais ça nous concerne tous. Hein, et c'est clair que c'est nous ensemble qui bâtissons l'Église. Mais, voilà, Dieu a voulu qu'il y ait aussi des personnes avec certains dons qui sont spécifiques. On regarde ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Il semble que ces dons de personnes, eh bien, ne sont pas forcément sédentaires. Elles peuvent bouger, se déplacer. On vient de lire dans les Actes que Dieu décida de laisser certains prophètes et docteurs dans l'église d'Antioche et il a décidé d'envoyer Barnabas et Saul pour aller s'occuper d'une autre œuvre, aller ailleurs. Hein. Et donc, ces dons qui sont faits à l'Église universelle, ce sont des hommes que Christ a choisis pour son Église et qui ne sont pas liés d'une manière indéfectible à une Église locale. C'est Dieu qui dispose d'eux et qui, voilà, qui peut les déplacer de droite et de gauche. L'évangéliste, il va bouger en fonction de là où Dieu eh bien, veut qu'il aille prêcher l'évangile pour exercer son ministère. Et de la même manière, un pasteur ou un docteur ou pasteur-docteur peut rester un certain nombre de mois, d'années, de décennies, et puis partir, aller ailleurs, s'occuper d'une autre œuvre dans une autre ville. Et c'est quelque chose qui se confirme quand on regarde l'Église actuelle, hein, l'Église dans le monde. C'est comme cela que ça se passe. Hein. Certains pasteurs eh bien, peuvent être là. Quatre ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Mais on n'a qu'une partie de la structure ici, une partie de la structure de l'Église locale. On a vu les diacres et ceux qui ont un appel spécifique, qui ont reçu un don, les apôtres, prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais on peut dire la structure, elle est même un peu plus large. On voit que Barnabas et Saul vont évangéliser et puis ils vont aller dans plusieurs villes, faire des disciples. Regardez Acte 14, versets 21 à 23. Acte 14, versets 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils établirent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et on voit ici une autre partie du cadre de l'église locale, une partie dont on ne peut pas faire abstraction. C'est une réalité pour l'église primitive et pour toutes les églises. C'est que dans toutes les églises, on voit des anciens. Il est parlé des anciens. Elles ne possédaient pas un seul, mais plusieurs à chaque fois. Et ça, c'est un fait qui ressort de tous les textes du Nouveau Testament. Et la structure biblique de l'église locale, elle est composée nécessairement d'une pluralité d'anciens, anciens ou évêques. On voit les deux termes qui sont interchangeables, hein, anciens, évêques. Anciens, eh bien, c'était une autorité religieuse pour les juifs. Évêque, c'est le nom pour l'autorité religieuse, plutôt pour les grecs. Et donc, il y avait les anciens et les diacres, hein, ou évêques et diacres. On le voit par exemple au début d'une épître, je vais vous la lire, dans l'épître aux Philippiens, mais il est dans plusieurs débuts d'épîtres, vous le lisez. Il est dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Là, vous avez la structure de l'église locale. Les saints, les évêques et les diacres, ou les anciens et les diacres. Ça, c'est la structure biblique. On lit encore à Tite 1, verset 5. Tite 1 et verset 5. Il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, etc. » Ici, c'est le cadre, hein, la structure bénéfique pour l'église locale. Le plan de Dieu, c'est une pluralité d'anciens. Alors, aujourd'hui, dans l'église, on peut dire qu'on est deux anciens pasteurs, Francisco et moi, et on a trois diacres. Donc, c'est Raymond, c'est François et Arnaud. Alors, c'est un bon début, mais c'est destiné à s'étoffer, hein, à s'élargir, élargir le conseil de l'église, élargir avec un nombre de serviteurs qui sont reconnus comme tels. J'aimerais qu'on puisse voir maintenant que c'est une structure qui est inspirée par Dieu. Acte 14, verset 23. Ils, c'est Saul et Barnabas, donc Paul et Barnabas, établirent des anciens dans chaque ville, dans chaque église, pardon, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc ici, il nous est parlé de l'établissement des anciens, et le terme employé pour le verbe établir, c'est le terme grec « cheirotoneo ». Et ça signifie littéralement « étendre la main » comme pour un vote. Voilà, on étend la main pour un vote. Et c'est intéressant de voir pourquoi Dieu a inspiré ce mot à Luc. C'est un mot qui était employé à Athènes quand il fallait prendre une décision d'intérêt national. À ce moment-là, on rassemblait tous les citoyens sur la place, ça s'appelait une ecclésia, ah, une église, intéressant. Et on faisait alors des propositions à l'ecclésia, à l'assemblée qui était là, et laquelle devait approuver ou désapprouver. S'il levait la main, eh bien il y avait approbation de la décision. Ça signifie que le choix des anciens est un choix qui s'opère en partie par l'église locale. C'est pas l'église qui propose, c'est les responsables en place. Ils viennent, ils rassemblent l'ecclésia et ils proposent. Et l'ecclésia, eh bien, va venir entériner, dire « Oui, on accepte, on reconnaît ». Il y a un vote d'approbation, de désapprobation de l'église qui accepte et qui reconnaît la qualité d'ancien d'une personne. Mais il faut relever aussi un autre fait intéressant, c'est que l'établissement des anciens ne se fait pas dès qu'ils se convertissent. Si vous regardez, Barnabas et Saul n'arrivaient pas dans une ville, ils faisaient quelques convertis, et puis 15 jours plus tard, bon, allez, toi tu seras ancien, et on va les proposer à l'assemblée, ils vont voter. Non, ils laissaient passer du temps, et après, ils revenaient. C'est ce qui s'est passé pour eux, hein. Ils sont partis. Voilà, au verset 21, nous lisons, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Donc, ils étaient déjà passés dans ces villes, et ils avaient gagné des âmes, ils étaient partis, et puis ils reviennent, et que c'est que à ce moment-là, où là, eh bien, ils vont choisir, établir des hommes, et inviter l'Assemblée à voter. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que ça nous montre que le choix des anciens, ça se fait dans la durée, ça se fait dans le temps. Les anciens sont des personnes qui ressortent naturellement comme ayant les qualités requises pour cette fonction et assumer cette responsabilité. Et de la même manière que l'Ecclésia de Jérusalem a su voir qui était qualifié pour être diacre, eh bien l'Église d'Antioche et de Lystre a su reconnaître aussi qui avait la qualité pour devenir ancien. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On voit, tout à l'heure je vous disais, les diacres ont été choisis pour leur zèle, leur amour pour leur Seigneur, leur humilité, le fait qu'ils étaient remplis de l'Esprit. C'est identique, évidemment, et ô combien plus pour les anciens. C'est une évidence, hein. Il faut de même avoir ces mêmes qualités. À la différence que pour celui qui aspire à la charge d'évêque, comme disent les Écritures, eh bien, il y a aussi, on reconnaît une qualité de pouvoir, eh bien, enseigner, donner un enseignement. Ça, c'était quelque chose qui fait partie aussi de toutes les caractéristiques d'un ancien. Et c'est quelque chose qui est vraiment sécurisant pour l'Assemblée. L'ancien ne s'auto-déclare pas ancien. Ça vient de l'extérieur. C'est les autres qui le voient et qui le disent. Et qui l'amènent à cette fonction. Il est reconnu par son assemblée locale et il est établi par son assemblée locale. C'est toujours son église, c'est toujours les frères et sœurs qui vont le reconnaître, qui vont dire « Mais oui, c'est évident, il a toutes les caractéristiques, l'humilité, le zèle, l'amour, la sagesse, la retenue. » Et donc, il y a une confiance qui se développe petit à petit et qui est réciproque. Acte 20, verset 28. Il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Ici, on voit un autre aspect concernant la nomination des anciens, c'est que d'une part, l'Assemblée les reconnaît, vote pour eux, mais en arrière-plan, on voit que c'est Dieu lui-même qui établit les anciens. C'est Dieu qui pose la structure, qui pose le cadre de l'Église locale. Et il va le faire au travers de son assemblée tout entière. Et donc, on peut dire que c'est une structure qui est inspirée par Dieu, qui vient du Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, c'est le Seigneur qui le recommande. Et lorsqu'un homme est fidèle, constant, attaché à la parole, ayant appris à servir avec humilité, eh bien, c'est le Seigneur qui le recommande à son assemblée. C'est lui qui le fait. Il en fait un responsable. Après, on voit que les anciens vont venir se compléter les uns les autres. C'est vraiment intéressant. L'un peut avoir un don particulier, un don à exhorter, un autre un don pour exercer la miséricorde, un don pour présider, un don pour conseiller, pour organiser. Et de la même manière que lorsque l'Église de Jérusalem a choisi des diacres et que deux d'entre eux ont reçu un don particulier, eh bien, quand Dieu établit des hommes, eh bien, il peut aussi leur donner des dons particuliers. Et ça vient se compléter, en fait. Chacun voilà, apporte quelque chose que l'autre n'a pas, et on se complète les uns les autres. Donc, les responsables établissent des anciens, l'Église entérine le choix, elle vote, mais Dieu choisit lui-même, et c'est lui qui donne les dons qu'il veut accorder. C'est pour cela aussi que certains anciens vont être poussés à tout quitter pour servir à plein temps. Et là, il y a un appel, vraiment, voilà, pour un ministère qui est spécifique, par exemple pasteur, docteur, évangéliste, ils font partie de ceux qui sont des dons pour l'Église. Et c'est ce verset que nous venons de lire, il a donné les uns comme apôtres, les autres, etc. Mais d'autres anciens vont être épanouis aussi en gardant un travail dans le monde, dans la vie, voilà, et tout en servant de tout leur cœur une assemblée locale avec tous les dons que Dieu leur a donnés. Et c'est ça qui enrichit en fait une assemblée. Et les anciens, eh bien, c'est ceux qui sont issus vraiment de l'assemblée locale. Tandis que ceux qui ont reçu un appel, eh bien, à tout laisser à partir, eh bien, eux peuvent quitter une assemblée locale et aller servir ailleurs. Et tandis que les anciens, eh bien, ils sont reconnus par leur assemblée et c'est les colonnes, en fait, qui soutiennent, qui portent l'assemblée. Et donc, il n'y a pas uniformité dans les anciens, mais plutôt une complémentarité. C'est ce que Paul dira en Timothée. Il va dire que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc là, on se dit, mais en fait, tous les anciens, tout le monde n'est pas pareil. On a des dons qui sont différents, et pour certains, eh bien, il y a vraiment un don pour l'enseignement. Pour d'autres, ils peuvent enseigner, mais ce n'est pas forcément le fer de lance. Ils ont d'autres dons, et ils apportent chacun quelque chose, et il y a une complémentarité. Diversité des anciens et des dons, pluralité des anciens, ça c'est la structure qui est inspirée par le Seigneur. Ensuite, on voit que c'est une structure qui est protectrice. Ce que Dieu fait, il le fait toujours bien. Et il nous montre dès le commencement qu'il y a obligation de faire comme cela parce que c'est quelque chose qui vient protéger toute l'assemblée. Et j'aimerais vous lire juste trois versets des Proverbes que vous connaissez. Proverbe 11, 14. Proverbe 11, 14. Il est dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous connaissez ce verset? Proverbe 15, 22. Merci à Ketia qui arrive à suivre. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, Dieu nous enseigne qu'avoir des conseillers, et donc avoir un conseil, eh bien, c'est quelque chose qui est salutaire. C'est nécessaire, absolument nécessaire pour une église locale. C'est là où se trouve le salut, c'est là où les projets réussissent. Il y a beaucoup d'avantages à avoir un conseil. D'abord, ça permet de déterminer la volonté de Dieu plus facilement. Les anciens, étant censés être des chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui sont fidèles, qui veulent rester sous la direction du Seigneur, eh bien, ils vont partager les idées ensemble et on voit plus clairement quelle est la volonté de Dieu. Dieu donne sa direction. Ça aide à préserver des mauvaises directions. Dieu peut arrêter quelque chose par quelqu'un, en montrant un aspect qui n'avait pas été vu. Et donc, c'est vraiment un garde-fou précieux. C'est important. C'est quelque chose qui est sécurisant pour l'Assemblée. Maintenant, le conseil, c'est aussi ce qui permet d'asseoir l'autorité légitime des responsables de l'Assemblée. Quand, par exemple, il y a un conflit, il y a une divergence avec le pasteur, avec un ancien ou un membre de l'Assemblée, le fait qu'il y ait un conseil qui débatte et puis après une décision qui est prise, ça fait force d'autorité. Ça fait force d'autorité. C'est une décision qui fait autorité. On le voit par exemple avec le premier concile de l'Église. Vous vous souvenez, il y a eu un gros problème là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces païens? Question du sang, la circoncision et tout ça. Ils ont rassemblé une ecclésia, mais tous les anciens et apôtres à l'époque ont discuté ensemble. Et puis finalement, ils ont décidé, on va écrire une lettre. Et voilà, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et elle faisait autorité. Un autre avantage du conseil, c'est que les responsables ne se sentent jamais seuls face à parfois des difficultés, des problèmes. On porte ensemble les problèmes. Et ça soulage énormément. La responsabilité est partagée et chacun est gardé du découragement. Et donc, il y a une protection dans un conseil d'anciens. Enfin, pour terminer, on voit que c'est une structure qui est visionnaire. Il y a parfois des églises qui ont un pasteur de 70 ans. Il crée l'église, il la fonde. Il y a plein d'âmes qui se convertissent. Voilà, hop, hop. Et puis les âmes vieillissent avec le pasteur. Et puis petit à petit, hop. Et puis l'église meurt avec le pasteur. Voilà, ça a fait ça. Et c'est triste. Ou bien l'église parfois perd subitement le pasteur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Parce que il n'y a personne qui se sent de pouvoir venir au pupitre, il n'y a personne. Et là, voilà, c'est un peu une catastrophe. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est appelée à naître, et puis à, pas à mourir, mais à se multiplier, à progresser, à avancer. Hein. Alors c'est certain que le fondateur d'une œuvre, ou le pasteur qui va aider au développement d'une assemblée, il a une grande responsabilité. On voit d'ailleurs que dans les Écritures, il est parlé d'un don de gouverner. C'est en 1 Corinthiens 12, 28. Hein. C'est pas la peine de le prendre, c'est juste le don de gouverner. Il s'agit du mot grec kybernésis, encore un nom compliqué. Et le terme grec dérive du verbe kybernao, et ça signifie gouverner un bateau. Gouverner un bateau. Le kybernétès, c'est l'homme de la barre. C'est le timonier. C'est intéressant, hein? Et si l'Église, c'est comme un navire, hein, et Jésus-Christ est le capitaine, eh bien, il y a toujours un timonier qui tient, il suit les ordres du capitaine, mais voilà, il donne la direction. Il y a un gouvernail et on tourne au bon moment. Le timonier est rien en lui-même, tout vient du capitaine, hein, mais c'est important. Et chaque timonier, il va savoir s'entourer des hommes qui vont aider l'Église locale, qui vont l'aider à croître, à grandir, à mûrir et à perdurer dans le temps. Et donc, même si on ne peut pas exclure qu'il faut bien donner une direction quelque part, que la collégialité, c'est quelque chose qui est visionnaire. C'est vraiment, on ne peut pas l'exclure. C'est très important. Ça permet d'asseoir, de pérenniser et de multiplier l'Église locale. Alors, une église solide, structurée, riche d'un conseil d'anciens, c'est une église qui devient capable de se reproduire et de fonder de nouvelles œuvres. C'est une église qui ne disparaît pas quand le pasteur disparaît. C'est une église qui marche. C'est une église qui sait se défendre contre les attaques de l'ennemi. Elles sont diverses, elles sont variées. Hein. C'est aussi une église qui est belle, une église qui brille hein, de tous les dons, toutes les facettes de la personne de Jésus-Christ. Hein. Voilà, je m'arrête ici. Eh bien, qu'on puisse construire ensemble l'église locale avec cette structure biblique qui est inspirée par Dieu, protectrice et visionnaire et pour le bien de nous tous. On va voir un moment de prière.